cas, bien bonjour à tout le monde qui a écouté nous. Merci d'être à l'écoute de Radio Sofia Attitude. Vous êtes connectés un peu partout dans le monde. Merci pour cette fidélité. Et on a avec nous donc une grande dame de la musique antillaise, celle qui a fait rayonner le zouk avec le groupe Kassav un peu partout dans le monde. J'ai l'honneur, mais vraiment, de recevoir donc Jocelyne Béouard ce matin dans notre émission Big Nostal Zouk. Comment ça va, Jocelyne?
Ça va. J'ai passé une bonne soirée hier soir, et puis voilà, et ça a duré évidemment plus longtemps que prévu, mais pas de façon extravagante, puisque c'était pas une soirée dansante, mais plus une soirée de présentation, ce qui fait que bon, avec les journées de promotion que j'étais un peu fatiguée ce matin.
Ah, ça, on peut comprendre. Après, donc, des séances de dédicaces, donc, c'était assez tendu quand même. Hein?
Tendu, non. C'était, les séances de dédicaces sont assez plaisantes, puisque c'est l'occasion de rencontrer les gens et d'échanger avec eux. Je crois que les gens, quelquefois, ont besoin de ça, de temps en temps, de rencontrer des artistes qu'ils aiment bien et puis dire un petit bonjour, quoi.
Ouais.
Donc, c'est très plaisant, mais ça prend...
C'est ce que je voulais dire.
C'est énergivore, quoi.
Exactement. En tout cas, c'est un plaisir. Mais je reçois donc aujourd'hui, on va dire, l'actrice, la compositrice, donc chanteuse de, et la seule d'ailleurs, donc du groupe Kassav, et aujourd'hui donc l'écrivaine quelque part, donc parce que donc tu viens de sortir donc ton livre qui s'appelle donc qui est titré donc Loin de la mer. Et lorsqu'on lit comme ça, on pense à la mer, mais en fait c'est la mer donc qui vient d'amertume. Donc on peut dire que Jocelyne Béouard, c'est quelqu'un qui n'est pas amer du tout, malgré donc les difficultés parfois donc qu'on peut rencontrer dans la vie.
Ben dire ça, ce serait peut-être mentir, parce que n'importe qui peut avoir des raisons d'être un peu amer. Mais quand on lit l'histoire de Kassav, quand on voit tout ce qui s'est passé, on pouvait être complètement aigri. Mais je crois que quand je dis loin de la mer, c'est-à-dire que ça a été l'attitude en fait à avoir qui permet de continuer à aller vers l'avant plutôt que de stagner dans les reproches et dans l'écriture, voilà.
C'est ça. Alors donc dans le livre, on va parler du livre, hein, bien sûr. On va pas tout dire parce qu'il faut que les gens achètent donc ce magnifique bouquin.
L'idée. Faut qu'ils découvrent surtout.
Ah ouais.
Faut qu'ils découvrent ce qu'il y a dedans.
Découvre pas mal de choses. Et Jocelyne Béouard, c'est les débuts donc de Kassav. Comment tu découvres donc ce groupe, je sais que tu as commencé donc choriste, donc déjà donc sur le deuxième album, je crois, donc du groupe Kassav. Comment ça se passe?
Alors déjà je vais te dire un truc, c'est que Kassav, le premier album de Kassav, quand je l'entends, je suis à la Martinique chez mes parents et j'entends les veillots, et j'adore ce que j'entends, et je dis tout fort, c'est là que je veux aller. Donc j'ai envie de faire ce type de musique-là, de travailler au machin, et pourquoi pas travailler avec les gens du groupe, quoi. Et en fait, bon, moi, je ne m'occupe pas trop de ça, mais comme je répète un endroit et que Pierre-Édouard et Jean ont la clé d'une cave, et c'est la cave dans laquelle je répète avec Roland Louis, on finit par se rencontrer un moment, mais moi, je ne sais pas qui ils sont. Ouais. Par contre, eux, ils savent qui je suis, et ils surveillent ce que je fais, etc. Donc, ils m'appellent, effectivement, pour faire les chœurs, et donc je comprends qu'il s'agit du groupe que j'aime tant, voilà. Et puis, mais comme malheureusement par la suite je tourne avec Bernard Lavillier et avec les Gibson Brothers, je suis pas disponible pour venir avec eux, notamment pour leur premier concert en 82, donc je les rejoins en 83, voilà.
Ouais. Et c'est assez bizarre donc ce que tu nous dis, parce que en même temps dans ton éducation, on le lit dans ton livre, cette culture-là, donc on a l'impression que ton père vous a éloigné quelque part de cette culture, même si c'était quelqu'un, comme tu le dis dans le livre, fan donc d'Aimé Césaire, il nous transmet pas la fierté d'être noir.
Ben, en fait, le truc, tu sais, l'histoire de la fierté d'être noir, je crois que si on doit être simplement un être humain, tu vois. On n'est pas une couleur, déjà.
C'est ça.
On n'est pas une couleur. Donc, il y a un truc, et c'est vrai que... Alors maintenant, je veux dire, est-ce qu'on parle de culture, est-ce que la culture de chez nous, je parle de la culture... soit martiniquaise, soit guadeloupéenne, soit antillaise, tout simplement, parce que je fais... quand je regarde, on n'est pas si éloigné que ça, d'accord ? Donc, quand on regarde bien toutes les cultures, la culture elle-même, je veux dire, nos cultures ne sont pas une question de couleur, parce que quand tu regardes les gens qui sont dedans, il y en a qui ne sont pas très noirs.
Ouais, c'est ça.
Et pourtant, il y a qu'un fait Goka, il y a qu'un fait machin, il y a qui Guadeloupéen, qui Guadeloupéen, il y a qui Matinitché, qui Matinitché.
Exactement.
Donc tu vois, l'histoire de la culture noire, c'est un grand questionnement. C'est vrai qu'il y a de toutes les façons une cause noire, certes. Parce qu'il y a justement toute la déportation, les gens qui ont été esclaves, et patipata, c'est parce qu'ils étaient noirs qu'ils étaient comme ça. Mais je veux dire, quand on parle de culture noire même, et même de culture africaine, il faut savoir de quel coin de l'Afrique.
Ouais, c'est ça.
Parce que ça change d'un côté et de l'autre. Donc, si tu veux, c'est pas une histoire de... Il nous éloigne de la culture noire, du truc noir. Je veux dire, pour résumer, mais en fait, ce qu'il veut, c'est que nous n'ayons pas de problème en tant que Français, parce que lui se considère comme Français, et que comme je vais aller faire des études en France, il faut que je puisse être bien en France, que je parle convenablement le français, que je puisse jouer convenablement le piano, etc., etc. Donc, la culture de chez nous, il ne la rejette pas, mais la culture qui prédomine et qu'il de toute façon cautionne, c'est la culture française.
C'est ça.
Et
c'est le cas de beaucoup de parents à l'époque, hein, donc où
mais le
créole, fallait pas parler le créole.
Aujourd'hui, je veux dire, c'est pas à l'époque seulement. Certains enfants disent, mais on est autorisé à parler. Heureusement que vous avez fait des morceaux, parce qu'on a pu être autorisé à parler le créole en chantant vos morceaux. C'est tout. Donc chanter Kassav, c'était admis, mais parler créole, c'était pas admis toujours, malgré tout.
Alors Josine Biwa, avant d'être donc chanteuse, tu as rêvé effectivement d'être un jour chanteuse, ou bien donc tu étais pas dans cette optique-là du tout?
Non, j'ai rêvé de chanter, mais d'être chanteuse, j'ai rêvé de chanter. Ouais. Je n'ai pas rêvé d'être chanteuse, parce que en fait, c'était pas justement dans notre éducation, parce qu'aux Antilles. Je veux dire, bon, maintenant, il y a un peu moins de 400 000 habitants. À l'époque, c'était sans doute à peu près la même chose, 350 000, 50 000 et 380 000 personnes. Je veux dire, quand vous faites un métier de chanteuse, soit vous chantez dans les hôtels assez régulièrement, donc, puisque vous avez un public qui change tout le temps, donc c'est pas gênant, et puis un public acquis, puisque c'est le public de l'hôtel. D'accord. Soit vous chantez à l'extérieur de l'hôtel, et ça, vous n'avez pas de concert tous les jours. Donc si vous avez des enfants, que vous avez une maison, un loyer à payer, je veux dire, vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas exercer ce métier-là. Vous êtes obligé d'avoir ce qu'on appelait à l'époque un vrai métier. Ouais. C'est-à-dire un métier qui vous permet de nourrir vos enfants. Et donc, ce n'était pas dans notre éducation d'être artiste.
C'est ça.
On pouvait être artiste en dilettante, on pouvait apprendre à peindre, à dessiner. Voilà, on fait un joli tableau qu'on offre à la grand-mère et tout le monde est content.
Vas-y, mais c'est ça. Et en plus, tu parles de tableau et on apprend également donc dans le livre, bien avant donc même, que tu as fait donc les beaux-arts, donc que tu aimes quelque part dessiner, tu aimes faire des choses, et on le voit donc même sur tes posts Facebook, beaucoup de créations, donc des photos, mais on voit qu'il y a véritablement donc la création derrière.
Oui, en fait, quand je pars, je quitte mes parents C'est la première fois que je me retrouve toute seule. Donc c'est la première fois que je réfléchis pour moi. Mmh. Voilà. Et quand, comme je suis loin à 8000 km, je peux avoir des choix autres que ceux que mes parents pourraient me suggérer. Ouais. Donc en fait, le truc, c'est pas être rebellé ni quoi que ce soit, c'est trouver une autre solution. C'est-à-dire que quand j'ai voulu réellement rentrer aux Beaux-Arts, je me suis dit, mais comment je pourrais vivre en étant artiste ?
Ouais, c'est ça.
Donc finalement, j'ai trouvé la solution d'être prof de dessin éventuellement, ce qui me permettrait de faire du dessin de décoration ou de je sais pas quoi à côté. Voilà. Et donc ça m'autorisait à aller aux Beaux-Arts parce que j'avais trouvé une solution qui était viable, qui me permettait d'avoir un vrai métier, c'est-à-dire être professeur.
Ah, voilà. D'accord. Et là, donc, tu fréquentes effectivement des Guadeloupéens, donc des gens du côté de l'Afrique, un peu partout, les Antillais. Et là, tu traînes avec Luc Hubert Séjour, où tu réalises. Donc,
que j'ai rencontré hier soir d'ailleurs.
Ah, tu as rencontré, d'accord, super.
Il est venu à la présentation.
Un magnifique personnage. Et là, tu réalises la pochette de l'album, du tout premier album de Luc Hubert. Et tu me racontais une histoire assez sympathique d'ailleurs, où tu peins donc l'album. Et Luc Hubert, c'est genre qui te dit, ouais, tu as peint Vélo. Et toi, tu n'avais jamais rencontré Vélo.
Elle n'avait jamais rencontré Vélo. Il me dit, mais ça ressemble à Vélo. C'est Vélo. Voilà. Je dis, mais je ne connais pas Vélo. Oui. Je ne connaissais même pas Vélo, moi, je sais.
Et ceux qui nous écoutent, effectivement.
En fait, effectivement.
Voilà. C'est l'album, le tout premier album, premier voyage, etc. Et il y avait un son dessus qui a marqué donc la Guadeloupe avec. C'est resté le générique des obsèques pendant plusieurs années. Donc chez nous, c'est un album quelque part qui a très 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 bien marché. Alors Jocelyne Biroir, donc on a parlé donc des débuts de Kassav, mais il y a un truc qui m'intrigue donc dans tout ça. Parle-nous de ce titre là.
Spider-Man.
Alors là, donc, c'est 1979.
Oui, alors, c'est vrai.
Dis-nous tout.
C'est 79, ça?
C'est 79, c'est ça.
Ouais. Ah ben, je fais des cures. C'est peut-être un peu après, non? C'est pas 80?
Ah, je crois
parce
que c'est...
Que je crois... Ouais. Oui, je vais te dire pourquoi, parce que... Je 79, je pars à la Réunion fin 79 et quand je reviens, je commence à travailler avec l'équipe Sound Brothers et c'est eux qui m'appellent pour faire les chœurs donc justement de ce remake qu'ils font de cette chanson Spider-Man qui est sortie mais avec une voix d'homme. C'est un homme qui chante la première version et c'est un producteur allemand et compagnie et eux ils veulent faire la version féminine française, enfin en France quoi.
Ouais.
Pas française puisque je chante en anglais et donc ils m'appellent faire les chœurs donc je fais les chœurs et quand ils m'entendent ils entendent ma voix ils voient que moi je me dis on va essayer mazel pour la voix solo quoi donc ils me disent je suis reste là ça et puis à la fin ils me disent bon est-ce que tu peux chanter ça etc et donc je fais l'essai et ils me disent c'est bon on t'engage c'est toi qui vas chanter la chanson reviens dans 2 jours travaille là et reviens dans 2 jours.
Et ça donne...
Je suis parti avec mon texte, tout ça.
Et ça donne ça. Ça ne s'arrête pas là, hein. Donc les aventures, on va dire, au niveau des groupes, au niveau de la musique, on a trouvé ça également. Écoute ça.
Ah oui. Tom Black. Ouais, bien sûr.
Alors pourquoi j'en parle? Parce que celui qui a réalisé, qui a composé donc ce titre-là, il s'appelle Daniel Lozio et c'est le membre fondateur de cette radio. Quelque part, si c'est grâce à Daniel Lozio, que cette radio donc existe. Attends, on écoute un extrait. Yeah. quand tu nous dis quelque part, donc quand tu entends du Kassav, ça t'a marqué, on comprend mieux. Hein, donc, tes goûts au niveau musique, tu es très attaché donc à notre culture, à notre gros cas. Et on voit même, on lit même donc dans ton livre où tu fais la comparaison par rapport à la Martinique, où on entend donc le Gouka à Pointe-à-Pit, mais on l'entend pas vraiment, donc par exemple à Fort-de-France, donc dans la ville.
Non, le belay, c'est uniquement bon, dans les hôtels et les choses comme ça, dans les soirées folkloriques, mais on n'a pas de... Je veux dire, chez les gens, moi, ça m'a toujours plu, quoi, quand je venais en Guadeloupe, à n'importe quel moment, quelqu'un pouvait débarquer avec un tambour et tout le monde chantait. Tu vois, donc c'était devenu vraiment la culture des gens, quoi, la culture populaire, quoi. Ouais. Et alors qu'à la Martinique, bon, je veux dire, le belay, il fallait soit monter à Sainte-Marie pour l'entendre, ou descendre je ne sais pas où, tu vois, mais bon, de toute façon, il fallait... On ne l'avait pas chez soi, quoi. C'est-à-dire, il n'y avait personne de ma famille qui allait prendre un tambour pour venir chanter du belay chez nous, quoi. C'est ça.
C'est ça.
Donc, parce que je ne parle pas uniquement de ma famille, je parle de, en général, les gens en ville, le belay, non. Disons que, bon, il a fallu qu'il y ait... comment il s'appelle, Eugène Monard, et puis je veux dire, les cours de danse de belay, et puis de tambour et compagnie, mais ça date d'après, c'est avec le Cermak, et c'est vraiment tardif, quoi, dans les années 70.
Et ça, on retrouve, tous ces anecdotes dans le livre. C'est magnifique. Mais franchement, ça, c'est plaisant à lire. Il faut, faire attraper le livre-là, ça, absolument. Alors, Kassav, on le voit, la seule chanteuse dans Kassav. Mais je aussi, non, se demande, mais comment tu faisais avec autant de gars autour de toi? Et on sait que lorsqu'on a des gars autour de soi, donc il y a ce côté macho, etc. Comment tu arrivais à t'imposer? Parce que tu l'as fait, on le ressent.
Oui, mais je crois que de la même manière que j'ai rejoint ce groupe-là, de la même manière que j'ai été parce que j'avais envie d'être là, parce que j'avais envie de travailler avec eux, quand ils ont commencé à me connaître, je pense qu'ils ont aimé travailler avec moi. Donc c'est vraiment... comment on appelle ça, je pense pas que ce soit posé de question, quoi. On avait quelque chose à faire et chacun qui était là, il n'y avait pas de personne qui devait être inutile. Ouais. Tout le monde devait mettre la main à la pâte, et donc dans la mesure où moi je mettais la mienne, j'étais acceptée. Et bon, le truc, c'est que bon, tu dis comment j'ai fait avec tous ces hommes-là, mais comment ils ont fait avec moi aussi, ils ont posé la question à l'envers. Parce que, même si au macho, moi j'ai ma façon de voir les choses, ma façon de penser, et que je n'impose pas, mais que je propose aussi de la même manière que eux proposaient leurs idées. Donc, je crois que c'est chaque monde là pour travail, quoi, c'est tout.
C'est ça. Voilà. Ah, donc, entre 80 et 83, on va dire, beaucoup de choses donc, ont eu lieu, et on entend pour la première fois. Donc la voix véritablement donc de Jocelyne Biwar sur un album Kassav, on va dire véritablement un album Kassav, avec ce titre Momentala, que toi tu composes également ce titre là, c'est ça. Là, on est en 83, hein. On parlait pas encore de musique zouk, mais le son était là déjà. Le style était là. Et ce qui est étrange, et je discutais avec un ami que tu connais certainement, Woody Mister, donc du Noadio là-bas, c'est que 82, Patrick Saint-Éloi, donc sur son album solo, en 84 également, et là, on les entend et on l'entend et toi également pour la première fois sur cet album, Patrick Saint-Éloi sur le titre Contact et toi sur ce titre-là. Et là, on découvre la voix donc de Jocine Biwar sur un album Kassav. Alors comment comment ça se passe? Comment tu perçois les choses?
Ben moi j'étais surprise quand Georges m'a dit justement c'est lui qui a en fait on dit je compose, c'est vrai que je co-compose quelque part puisque c'est Georges qui me donne une base rythmique et il me dit voilà il y a une base rythmique, fais une mélodie et puis un texte dessus. Et voilà, donc à l'époque il y avait un copain qui était souvent avec nous qui était Marcos Lopez. Et Marcos m'a plus ou moins aidé à faire la mélodie et puis voilà, il a fallu écrire le texte et voilà, ça s'est fait comme ça.
Donc et après donc l'aventure continue et en 86 Jocelyne on va dire que c'est l'explosion donc pour ce groupe Kassav reconnu meilleur groupe.
Avant 86, hein.
C'est 86. Alors, c'est à quelle année?
Oui, parce que c'est décembre 84, Zougazel Médicament Nouni, et c'est là que ça explose.
Non, je parlais sur le plan national, hein, donc voilà.
National?
Oui, lorsque vous avez remporté le reconnu, donc, meilleur groupe français.
C'est 88.
Et ma question, effectivement, il y avait Zoukla Sel Médicament Nouni qui a eu donc double disque d'or. Et là, donc, on voit véritablement apparaître donc cette musique avec le nom Zouk.
Ouais.
Et là, donc,
c'est... Non, ça c'est 84. Bon, chez nous. Et puis, bon, en France, mais en France, ils étaient en retard dans tout.
Mais les gens voilà.
Puisqu'en 85, on faisait déjà le Zénith, hein.
C'est ça.
Donc quand la France reconnaît en 88, elle a trois ans de retard en fait.
Voilà. Alors ma question c'est que la France, donc enfin on va dire reconnaît, d'accord, meilleur groupe français, mais est-ce que les Français même ont véritablement, je parle donc bien sûr donc dans l'Hexagone, est-ce qu'ils ont véritablement reconnu ce groupe-là comme meilleur groupe français? Est-ce qu'il y a un souci quelque part par rapport à ça?
Tu veux que je te dise quelque chose,
dis-nous tout.
Je m'en fous.
Ouais.
C'est pas une question que je me pose.
Ouais.
C'est vraiment pas une question que je me pose. C'est-à-dire que est-ce que les Français ont reconnu ou pas, c'est pas grave.
Ouais.
Tu vois, s'ils n'ont pas envie de reconnaître, s'ils ne reconnaissent pas, c'est leur truc, quoi. C'est leur problème. Ouais. Honnêtement, moi, je pense que avoir la reconnaissance du reste du monde, ça m'a suffi largement, quoi. Tu vois? C'est vrai qu'on aurait préféré que le pays dont on a le passeport reconnaisse aussi, mais sinon pas envie, non pas envie. Tu vois, moi, je suis pas là pour supplier quiconque.
Ah ben exactement. Ben c'est la réponse quelque part que j'attendais. Et parce que après donc le monde, l'Afrique, un peu partout dans le monde, Kassav donc impose non seulement la musique, mais notre créole. Et ça, vous êtes à cheval, c'est ça, créole, dans toutes nos compositions, donc c'est le créole, c'est notre langue qu'on doit promouvoir, c'est ça.
Parce qu'on considérait qu'il y avait un beau son en créole, c'est-à-dire que nos chansons, qu'on était meilleurs, en tout cas en chant, quand ce chant était en créole. Pourquoi? Parce qu'on exprimait beaucoup mieux nos sentiments. C'est ça. C'est-à-dire que quand on chante en français, on va faire attention à bien prononcer, machin, etc. On va oublier ce qu'on est en train de raconter. Et même quand on raconte les choses en français, il y a un truc, il faut vraiment se poser des questions. C'est vrai que quand on connaît la poésie française et que si on veut rentrer dedans, par exemple, en faisant du théâtre ou en récitant un poème, machin, on peut très bien exprimer des sentiments. Puisque, bon, on a cette double culture-là. Le truc, c'est qu'en créole, ça va nous toucher intrinsèquement, quoi. C'est-à-dire que c'est tout en nous qui a vibré bien. Donc, automatiquement, il était plus intelligent, justement, d'utiliser cette langue-là parce que ça lui permettait d'exister, ça lui permettait de ça, et puis ça nous permettait aussi de la travailler. De la travailler au niveau des sonorités, de la travailler au niveau du vocabulaire. Le vocabulaire créole s'appauvrissait de plus en plus. Donc, il fallait qu'on retrouve les anciennes formules, etc. Et comme en même temps, il y avait plein de gens dont le gérait, comment dire, qui se battaient pour justement la reconnaissance du créole, que le créole soit enseigné à l'université, etc. Et qui avaient créé d'ailleurs des dictionnaires et des grammaires, tout ça, pour le créole. Je pense que bon, c'était quand même toute une période où plein de gens justement se battaient pour cette langue-là. Et je crois que la mettre et la sublimer dans des chansons ne peut que l'aider justement à exister et à être reconnue. C'est ça. Donc bon, on n'a pas du tout la prétention de dire que c'est nous qui avons fait si le créole, si là, parce qu'il y a plein d'autres gens qui travaillaient en même temps pour donner au créole justement sa place dans nos vies. Parce que c'est même pas une histoire de sa place. C'est lui redonner sa place dans nos vies. Parce que nous qu'à songer, nous qu'à manger créole, nous qu'à penser créole, nous qu'à vivre créole et compagnie, et puis l'anglais, nous qu'à la dire. Il y a un problème.
Alors donc, on l'a vu aussi, donc, cette musique qui s'est imposée. Et aujourd'hui, quel regard tu as, donc, Jocelyne, par rapport au zouk, le zouk d'aujourd'hui qu'on a tendance à ne plus appeler zouk, d'ailleurs, donc...
Mais c'est ça, moi c'est ça qui m'attriste en fait. Le zouk d'aujourd'hui, je veux dire, il y a des gens qui font des choses, qu'il y a des créateurs qui réussissent plus ou moins leurs arrangements et voilà. Donc il y a des choses vraiment sympathiques et puis il y a des choses qui me touchent un peu moins. Je crois que mais ça a toujours été le cas de tout temps. J'entends des belles voix, je vois j'entends même des choses intéressantes au niveau des arrangements. Le seul truc, moi, qui m'inquiète et qui me chiffonne, c'est que quand on parle justement de nos musiques et compagnie, on a toujours honte de dire à l'autre, ouais, c'est du zouk, ou c'est, je sais pas, moi, c'est de la bidine, ou c'est ceci, cela. Il faut toujours qu'on tu vois, si, bah, l'Américain est plus fort, quoi. Tu vois?
C'est clair.
Mais c'est ça.
Ouais.
C'est ça. On a besoin, si tu veux, d'être, ouais, mais c'est pas machin, c'est Timon Soka, quoi, tu vois. Ah non, c'est de la salsa, ça, tu vois, mais. Dire que c'est un bail bokai, quoi, un bail bijin, machin. Même le compas, je veux dire qu'il y a une musique qui est... je veux dire, nos musiques sont très proches, la musique haïtienne, la musique antillaise.
Tout à fait, oui.
Moi, je veux dire, on consomme la musique haïtienne depuis des décennies, je n'ai rien contre, tu vois. Mais même le compas, on n'a pas honte de dire c'est du compas. Par contre, du zouk, on a un problème. On a un problème avec nous-mêmes. On a un problème avec nous-mêmes. Le problème, c'est là, faut nous régler.
Et fais-nous régler vite.
Mais faut nous régler.
Ouais.
Parce qu'on va passer notre temps, si tu veux, à être la pâle copie de l'autre.
C'est ça.
Et c'est fatigant.
Et c'est très fatigant, d'autant plus que lorsqu'on a un groupe comme Kassav qui a parcouru le monde, et qu'on voit, par exemple, en Afrique, comment vous étiez des dieux. Le mot n'est pas faible. Donc,
oui, c'est quasiment ça.
C'est
quasiment ça.
C'est quasiment ça. Et on se dit, mais attends, mais on est des Martiens, on débarque où, etc. Donc, comment tu ressens ça, donc, Jocelyne? Parce que lorsque vous arrivez en Afrique, c'est l'explosion. On a l'impression que, bon, voilà, donc, vous êtes dans un autre monde.
Mais c'est ça.
Ouais.
Ouais, c'est pas dans un autre monde. On est dans un monde où les gens te disent « Ouh, wow, il y a quelque chose qui se passe là, quoi. Ouais. » C'est ça.
Alors,
ce sont des frères, quand même.
Ça,
tu
bien,
vois, ce sont des frères. Voilà.
Et là, vous avez fait, on le voit donc dans le livre à la fin, vous avez parcouru partout. Là. Est-ce qu'il y a quelque part, aujourd'hui, tu te dis « Bon, n'ont pas fait ça, n'ont pas fait pays là, ça, hein, t'es bien aimé, fait. Donc, est-ce qu'il y a un pays que tu regrettes?
Il y a des pays qu'on aimerait bien faire, qu'on n'a pas fait, mais on ne part pas comme ça dans un pays.
Ouais.
Je veux dire, il faut déjà qu'il y ait de la promotion, il faut que vous ayez la certitude d'avoir quelqu'un qui vienne vous écouter.
Ouais.
Si vous faites un concert qui n'a personne, voilà quoi.
C'est clair. Voilà. C'est clair.
Voilà.
En tout cas, ouais. on voit tout ça donc dans le livre. Là, on a parlé effectivement de Cassa. C'est dommage effectivement donc au téléphone, c'est pas forcément évident. On a plein de choses à se dire effectivement.
Oui.
Mais on a de belles photos de toi effectivement du groupe, mais de la famille. J'ai vu une belle photo donc de votre de ta fratrie et quel genre d'adolescent tu étais donc je te vois assez calme, assez réservé, donc est-ce que je me trompe, est-ce qu'on
moi aussi je me vois calme.
Ah bon, ma d'accord.
Ma cousine a dit que c'était moi qui menais tout le monde, moi j'ai pas souvenir de ça, mais peut-être, mais en fait comme oui. Mon père m'empêchait de sortir, donc dès que j'avais l'occasion de faire une chape, je faisais quoi, donc les autres suivaient, voilà, c'est tout. et donc, j'étais pas bandit, mais presque.
Ouais. Ah ouais, bandit, carrément. Ah ouais, t'étais vraiment une fille.
Quand je dis bandit...
On s'est compris.
Le risque, bon, ben je le prenais à chaque fois, quoi.
Ouais, on voit cette...
Mais je faisais pas de... Attention, je ne faisais pas n'importe quoi.
Ah ouais.
Je ne suis pas parti dans des livres, dans des machins, parce que mon tuyuc a dit qu'à Pont-Vif longtemps. Donc, quand je prenais des risques, quand même, j'avais une assurance de pouvoir m'en sortir comme un avion.
Ah, donc, tu avais des parents assez sévères, donc, Jocelyne?
Oui, j'avais des parents sévères. C'est-à-dire que quand je parle de risque, c'est-à-dire que les parents dorment, on part à la rivière pêcher des oiseaux, ou bien on va pêcher des moubins, ou bien on va sortir ça, on va découvrir un coin. Mais c'était plus parce qu'on avait l'esprit aventurier, tu vois, c'est ça.
Ouais.
Quand on était jeunes avec mes cousins, tout ça, on aimait aller traîner à droite et à gauche, et nos parents, quand ils dormaient, bon, on n'avait pas le droit de sortir parce qu'ils voulaient savoir où on allait.
Ouais.
C'est tout. Donc, en fait, s'échapper de la vigilance des parents, mais avec des grands quand même, tu vois, c'était pas c'était pas... On partait pas n'importe comment, malgré tout. Tu vois, on avait passé tant qu'on partait tout seul à la rivière, c'est pas vrai.
Ouais.
Tu vois, les aînés avaient quand même déjà 15 ans, donc ils pouvaient nous surveiller, faire attention, etc. Donc nous, petits, on avait 19 ou 10 ou 8 ans, des putains comme ça, nous qu'à suivre, tu vois, parce qu'on aimait ça. On avait l'esprit d'aventure, et puis le pays était beau, je veux dire. Ça, quand tu allais à la rivière, tu plongeais dans la rivière, c'était un grand pied.
Ouais.
Et on nageait tous, en fait, on a tous appris à nager très vite. Parce que comme on vivait au bord de mer, il y avait la maison de vacances de ma grand-mère et tous les enfants étaient là régulièrement. Je veux dire, s'il y en avait un qui ne savait pas nager, il emmerdait tout le monde. Donc, je te dis, on te mettait très vite dans l'eau et on te faisait comprendre qu'il fallait que tu te débrouilles pour arriver sur la plage, quoi.
Ouais.
Et on apprenait à nager très vite. Donc, il n'avait pas, au niveau de la surveillance, il n'y avait pas vraiment de problème. Il n'y a pas vraiment de problème. Moi, je sais que mes neveux et nièces, je leur ai appris à nager très vite, quoi. Il fallait qu'ils lâchent la bouée très vite.
Ouais.
Parce que pareil, pour moi, c'est surveiller un enfant jusqu'à un de ses papas d'âge. Non, l'enfant tu n'as pas à avoir peur de l'eau. Ton pays entouré d'eau, ou plonger à dents et pousser à nager. C'est clair. Donc, c'est comme ça que je fonctionnais. Donc, on partait en aventure avec les plus grands, et les plus grands n'étaient pas trop effrayés de nous amener parce qu'on était quand même... On était assez sportifs, quoi. On aimait grimper sur des roches. On montait sur le bord d'une petite falaise, mais c'était une petite falaise quand même. On pouvait se fracasser en bas pour aller plonger du haut de la falaise.
Ah ouais,
parce qu'on aimait ça.
Ouais.
Mais c'était aussi loin de la vigilance des parents, parce que nos parents nous auraient vu faire ça, qu'ils nous auraient interdit de faire. Comme on était... On avait ce petit côté, c'est ce que j'appelle le côté bandit, c'est-à-dire qu'on était toujours prêt à faire des choses, mais des choses extravagantes. Moi, quand mon cousin nous fait descendre des escaliers assis sur les pattes d'une chaise, faut être fou, quoi.
Ouais, ah ouais.
Tu vois, mais on a fait des trucs comme ça.
Ouais.
On était bandit. C'est ça que j'appelle être bandit. Et quand on y réfléchit, on se dit, mais on était vraiment cinglés, quoi. On pouvait se casser la gueule, et même quand on sautait du haut de la falaise, on pouvait se fracasser sur les roches en bas. Non, mais on avait appris, il y avait des endroits précis où il fallait mettre ses mains pour grimper, et bien on avait appris tous les endroits où il fallait mettre ses mains, ses pieds, et on arrivait en haut de la falaise, et puis on attendait, on sautait. Et c'était, et puis ça nous amusait follement, quoi. Je veux dire, c'était, voilà.
Alors, ce qui est assez surprenant donc dans le livre et assez sympathique, donc chaque paragraphe, chaque chapitre commence par donc un extrait donc de tes titres ou des titres de Kassav. Et je trouve ça formidable. C'était voulu, je suppose que oui.
Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Ouais. Déjà pour pouvoir donner aux gens l'habitude d'écouter les textes.
C'est ça. Et on retrouve des photos, mignonnes photos qui fait moins sourire en l'eau. C'est un courrier qui part au Comore.
Ah, c'est génial.
Ça, c'est magnifique. C'est le courrier part, c'est Jocelyne Derwaun.
Bewan,
chanteuse. C'est ça, il y a un W. Ouais. Chanteuse orchestre. Kassav, ouais. Donc avec écrit Martiniqueuse, grande orchestre, Jacob Desvarieux. Et ça, Jacob Varieux. Tu vois, j'ai Varieux, tellement Desvarieux en tête.
Varieux. Jacob Varieux. Mais comme il y a Kassav, ouais. La personne a mis Voix en Guadeloupe.
Voix.
En fait, ça a dû arriver en France.
Ouais. Et c'est un truc de fou, ça. Et c'est arrivé à la Martinique.
C'est arrivé à la Martinique. Ouais. C'est passé chez Debs d'abord, puisque chez Henri Debs, et Debs a envoyé à Georges Debs, et on m'a remis le truc.
Aïe. Alors, tu parles de Georges Debs, donc ça aussi, c'est votre producteur début. Et c'est le producteur qui a produit ton tout premier album. Et là, c'était ça. Madame qui pas chanté ça, même Boug chanter Yovlon Nom Douce Croisé. Tellement donc c'était imprégné dans notre société cet album qui remporte quand même premier album féminin, donc double disque d'or.
Ouais.
Ah mais c'est incroyable. Ouais. Donc là une femme à l'époque c'était pas évident du tout, hein.
Non, pas du tout. Déjà, je veux dire, jusqu'à cette année-là, il n'y avait pas véritablement d'album féminin qui vendait de façon extravagante, quoi.
Ouais.
Les gens, on avait souvent un succès d'estime, c'est-à-dire que, ouais, même t'as qu'à chanter bien, ça s'arrête là.
Ouais.
Et puis, mais même pas qu'à acheter album, enfin, c'était pas truc. En dehors des grandes chanteuses d'époque comme Léona Gabriel, Magnolia Pioche.
C'est ça.
C'est des gens qui étaient reconnus, quoi.
Ouais.
Lola Martin qui a fait un album, d'ailleurs, elle avait fait un album avec tous les classiques de la Mazio Kassav et que tout le monde a acheté. Parce que c'était un album qui avait plein de chansons que les gens aimaient, Ami Wuro, Bossu à Bossuko, Assis Paris, toutes ces choses-là. Beaucoup de jeunes de ma génération et même d'après ont appris toutes les begins de chez nous grâce à cet album-là de Lola Martin, parce qu'avant, il n'y en avait pas tellement. Il n'y a pas tellement d'albums des chansons traditionnelles de chez nous. Et bon, il y a eu Gertrude Sénet aussi qui faisait un peu le traditionnel. Il y a eu le groupe Biffet, mais tout ça, je veux dire, on ne vendait pas des c'était pas des ventes faramineuses, quoi. Il y a eu les Zouk Machine avant moi.
C'est ça.
Qui en album.
Alors
et
là,
c'est ça, qui a motivé en fait le producteur, parce qu'il n'était pas prêt à faire mon album à moi, mon album solo, alors que j'avais déjà deux gros tubes qui étaient Mauvais Joué, Pas Besoin, Pas Dit. Mais il n'était pas prêt. Et quand les Zouk Machine sont sortis, là, il a dit, bon, je suis en danger, peut-être que quelqu'un va proposer à Jocelyne de faire l'album, puisque comme personne n'avait de contrat, hein, tu vois, je pouvais partir en n'importe quel moment.
Oui,
et en fait, il avait peur de ça, donc il s'est dit, je vais faire l'album. Mais c'est pas plus mal en fait, parce que les autres, tout le monde en fait s'était préparé pour faire l'album de Jocelyne.
C'est
que quand il a été prêt, ben tout le monde m'a pondu son meilleur morceau pour voilà.
C'est c'est ça, tu décris effectivement comment se réalise l'album, où chacun, comme les albums d'une manière générale, donc des membres du groupe Kassav, chacun amène donc mais son talent donc sur l'album de l'artiste, et ça c'est génial.
Exactement. Ouais. Exactement.
Voilà. Et là donc George Debs, qui est le frère donc d'Henry Debs, ben, prend sa revanche quelque part, double disque d'or avec avec Biroir, et là c'est ça part. Et là on se rappelle hein, donc à Noël à l'époque, Forte ni dis là ça hein. Parce que,
maman,
là, à tout, pas tout, où t'es qu'attente. On a l'impression que les gens achetaient quel album là, ça. On entendait ça dans chaque maison, dès que tu allais décoller chez quelqu'un.
Mais en fait, à chaque Noël, nous t'es mis en tube, puisqu'en 84, décembre 84, c'était Zoukla, c'est le médicament Noni. Mm-hmm. En décembre 85, c'était Pas besoin de parler.
C'est ça.
Mm. Et là, en décembre 86, c'est Caïmoman.
Ouais. Donc, et là, Kassav s'impose, on va dire, et donne une belle claque donc, au compas qui a sévi depuis, depuis des années chez nous. Et ça, donc, on le retient également. Hein. Alors, Henry Debs, dans son livre, dit, Jocelyne, sa façon de chanter, sa sympathie envers tout le monde, lui ont valu d'avoir une grande notoriété. Le grand prix qu'elle a reçu avec la chanson L'oiseau et la fleur en 1981 de Marius Cultier augmenta donc sa popularité. Puis avec Kassav, elle devint donc une célébrité grâce aux chansons La Teke, Tremblay, Siro, etc., Collé, Serré. Ça, c'est Henry Debs qui disait ça donc, dans son livre. Et j'ai trouvé ça très, très sympathique. Et il dit aussi que la prise a été gardée donc, et les morceaux furent un succès. Mais Justine incita bon nombre de filles à chanter, notamment donc, Tatiana Miat, que vous avez aussi invité donc dans un grand méchant
zouk. Le grand méchant zouk, ouais.
Alors la question donc Jocelyne, et c'est que le livre effectivement est en vente un peu partout, on l'a vu hein, donc tout supermarché, les librairies en Guadeloupe. Est-ce que donc il y aura donc une version numérique? Je l'ai cherché donc sur
il y a une version numérique hein,
qui existe. Numérique. D'accord.
Oui, elle existe. Il y a beaucoup de gens qui l'ont acheté en numérique aussi. Mm-hmm. Et je crois que on a déjà dépassé les chiffres qui permettent de dire que c'est best-seller quoi quelque part.
Ouais, c'est ça.
Et le comment on dit ça? Donc là, il y a la version numérique et justement, on est en train de penser à la version audible, c'est-à-dire que pour les gens qui n'aiment pas lire ou les gens qui ne peuvent pas lire,
comme moi,
avoir une version audio.
Donc, voilà. C'est ça, donc ça c'est à venir.
À venir, ouais.
Alors, Kassav, aujourd'hui, Jocelyne, sans Jacob, sans Jean-Philippe, je ne sais pas comment il va d'ailleurs, donc Jean-Philippe.
Ça va.
Qu'est-ce que donc Kassav va devenir? Est-ce qu'il y a un projet donc
Est-ce qu'on est en garde des affaires qui peut devenir? Moi, je suis pas garde des affaires, je vais pas te dire.
Ouais.
Honnêtement, moi, je pense que Kassav va devenir ce que Kassav devient.
Mm-hmm.
Ok. Il y a pas de. Pour moi, je dis Kassav, oui. Mon gars commence à dire Kassav, mais pourquoi vous voulez Kassav meurt? Bon, elle est morte, physiquement, oui, mais sa musique n'est pas morte. Donc,
c'est
la musique de Kassav, je ne vois pas pourquoi elle va mourir. Donc, de toute façon, la mémoire de Kassav sera ce que vous voulez en faire.
C'est ça.
Voilà, c'est ça. Mm. Donc, en ce qui me concerne, je sais que chaque fois que je vais sur scène, chaque fois que j'allais sur scène, je savais que si je faisais quelque chose de beau, que ça rejaillirait sur Kassav. Si je faisais quelque chose de mauvais, que ça rejaillirait aussi sur Kassav, négativement. Donc, je continue à faire la même chose. Parce qu'en fait, je suis enfant de Kassav. Je pense que ma notoriété, tout ça, j'ai beau avoir mon caractère, tout ce qu'on veut, peut-être que je n'aurais jamais eu la carrière que j'ai eue si je n'avais pas rencontré les gens de Kassav.
Ouais.
Tous les gens de Kassav doivent leur carrière à ce groupe qu'on appelle Kassav. C'est-à-dire, c'est le fait d'avoir été ensemble qui a fait que chacun a pu se développer. quand quelqu'un croit que parce qu'il est compositeur et compagnie, il est machin, il t'essaye, machin, etc., il n'a qu'à regarder les scores qu'il fait quand il est tout seul et les scores qu'il fait quand il n'a qu'un ça. C'est pas compliqué. On a tous existé ensemble parce que justement ce qu'on a fait ensemble était fort. Et je veux dire, tous les albums solo des membres de Kassav ont souvent été faits avec tous les membres de Kassav. Donc chacun sait ce qu'il doit à Kassav. Moi, je sais que je suis Kassav. Donc quand je fais mon concert, je sais que l'âme de Kassav, toute la réputation de Kassav repose sur tout ce que moi je vais faire. C'est-à-dire que si je fais une connerie, ça va salir la réputation de Kassav. Donc j'ai pas intérêt à faire de connerie. Kassav, je dois protéger Kassav et je vais protéger Kassav tant que je vivrai. Voilà.
Ah, mes belles mots. Alors on a quelqu'un au téléphone. Oui, bonjour. Allô.
Allô.
Allô, oui, bonjour.
Oui, c'est... Attends, dans le problème, je suis obligé... Oui, bonjour.
Oui.
Allô, bonjour.
Oui. Oui. Alors, je coupe le son.
Alors, coupe le son derrière toi parce que tu nous écoutes sur Internet.
Depuis
et...
joueur, c'est pas ça, vous coupez le son.
Voilà, non, c'est parce qu'il y a un délai, j'appelle depuis Paris.
Oui, comment ça va?
Bonjour, c'est Miguel Octave, voilà.
Ah, Miguel Octave, comment ça
va? Miguel Octave, ça va?
Très bien, et toi, Jocelyne?
Ah, bah bien.
Ben, félicitations pour le livre que je suis en train de lire, je ne l'ai pas fini, ma capotome, hein. Et je voulais te poser une question, je suis toujours dans la projection, dans les choses pour après, et je me dis, est-ce que, comme Kassav n'a pas créé d'école, de fondation, est-ce qu'il ne serait pas temps de passer à ça? La prochaine étape, c'est de créer une histoire Kassav qui perdure pour pouvoir transmettre aux générations à venir.
Ah ben, je compte sur toi pour ouvrir l'école.
Non, on ouvre un senti. Tu viens de nous dire que c'est...
Un centimètre, là, ça cabine, un centimètre.
Attends, parlons franchement. Chaque fois, c'est, ouais, pourquoi il n'y a pas de musée de Zouk? Moi, je suis musicienne, je ne fais pas de musée de Zouk.
Je sais.
Si vous voulez qu'un musée de Zouk, faites-le. Oui. Bon, maintenant, tu me parles d'école et compagnie. Je ne suis pas prof, je veux bien venir parler dans des écoles et compagnie, ce que je fais depuis des années.
Bien
même, que ce soit chez nous ou à l'étranger, je veux dire, je suis à Pézou le temps, même dans les universités. Tu vois, je le fais volontiers, compagnie. Mais moi, en panier, envergure, m'ont ouvert l'école de musique.
Bien sûr.
Donc, ça qu'il est en l'école de musique où je peux venir parler de Kassav, ouvrez.
Tu sais aussi bien que moi que c'est pas évident de proposer des choses comme ça.
Mais je sais exactement, oui, mais il ne faut pas non plus que les gens s'asseyent là et puis ils se mettent à attendre que Kassav ouvre une école.
Bien
je veux dire, si on veut une école dans laquelle on apprend les trucs de Kassav, ouvrez-la. Ceux qui ont cette idée-là, faites-le. Je peux vous aider à faire la promotion. Mais il ne faut pas non plus qu'à chaque fois, on compte toujours sur les mêmes pour tout faire. Il y a un moment où il faut que tout le monde soit acteur. Et c'est ce que j'ai appris dans Kassav. C'est que chaque personne est importante. Je veux dire, tu veux que ta culture avance? Mais ce n'est pas en regardant ce que l'autre fait, en critiquant ce que l'autre a fait, que ça va avancer. C'est quand toi, tu vas t'impliquer dedans et participer. C'est ça seulement qui peut faire avancer les choses. C'est tout. Et je sais ce que tu fais, Miguel. Donc, je ne suis pas en train de te critiquer, puisque je sais très bien tout ce que tu fais et tout. Donc, voilà. C'est simplement que je veux mettre un peu dans la tête des gens que c'est chacun qui doit participer. Ou pas qu'un qui s'y est là, qui a critiqué sa moune qu'a fait, ou même pas qu'a fait en patate.
Ouais.
Si tu ne fais rien, ferme ta bouche.
Ouais. Mais Miguel, moi, voilà. En tout cas, j'écoute Jocelyne, j'entends Jacob. J'ai l'impression que c'était la même réponse là que Jacob Thébaï, si on t'ai posé une question.
Avec
là,
peut-être plus de délicatesse parce qu'il était.
Allez, vous êtes les meilleurs communicants. Vous êtes les meilleurs communicants de Kassav encore aujourd'hui.
Ah oui, en tout cas Miguel, on rappelle donc réalisateur de plusieurs documentaires donc sur notre musique, donc la fabuleuse histoire de la musique antillaise, c'est toi. L'histoire donc de Henri Dieppe également.
C'est surtout le film que j'ai fait avec Jocelyne, qu'elle nous enchante, qui est pour moi
mon
préféré.
Voilà, donc
l'histoire des femmes, l'évolution de la mentalité sur les femmes à travers des chansons. Et Jocelyne a très gentiment, je voulais le dire parce que ça reste encore un de mes plus beaux souvenirs professionnels, elle devait partir, Jocelyne, tu devais partir et tu m'as dit ok, je t'accorde une heure, on est resté deux heures avec toi.
Ouais.
Et on n'a pas pu tout mettre. C'est un moment fabuleux. C'est des archives que je conserve précieusement et que j'offrirai à l'école Kassav.
à celui qui va se lancer dedans, en tout cas.
Mais non, il faut qu'on y aille. Et puis, on en a déjà parlé.
On a déjà parlé de ça.
Ok.
Alors,
merci beaucoup.
Alors, Miguel, avant de partir, ton titre préféré donc de Kassab,
sans aucune hésitation, parce que c'est le film, c'est le titre qui a provoqué l'envie de faire ce film qu'elle nous enchante. C'est Sakitala. Jusqu'à aujourd'hui, ça reste mon. Parce que vous parliez tout à l'heure de 86, décembre 86, j'étais à l'armée. Et je me rappelle très bien comme on sortait, j'étais dans les transmissions et j'étais de service, j'ai oublié comment ça se disait. Et j'entends un Ignace Passel qui nous parle de cet album, dont on entend Caille Maman. Et quand j'entends Sakitala, dès les premières mesures, l'eau qu'a vignanzi moi. Tellement. Je suis pris par cette introduction, ces violons, cette tonalité mineure et tout ça. Et quand la voix de Jocelyne arrive et que j'entends ça, et je vois la structure du morceau, la première partie où elle raconte l'histoire, ensuite la deuxième partie, j'ai un coup de cœur pour ce morceau. Et ce coup de cœur, je l'entends systématiquement quand j'écoute le morceau. Et je vais citer un de mes grands maîtres qui s'appelle Quincy Jones, qui dit « un classique, un standard ». C'est un morceau qui provoque la même émotion quand on l'écoute 1 an, 10 ans, 20 ans après. Ouais, et pour moi, Sakitala, ça restera le morceau de Jocelyne. Voilà.
Jocelyne. Alors, qu'est-ce que t'en penses,
voilà.
Jocelyne a l'air...
C'est Sakitala que j'ai fait qu'elle nous enchante. Et sans doute plein de choses autour de la musique en faisant des documentaires. Voilà.
En tout cas, Jocelyne a l'air très vraiment étonnée par rapport à ce que tu viens de dire.
Si, mais ça reste... Il y a deux. Mais je ne vais pas raconter l'autre histoire avec Mauvais Joue. Mais Sakitala reste ma référence. Je dis, je vais raccrocher, je vais mettre le morceau là. Et je vais ressentir la même émotion.
Voilà. C'est magnifique. Voilà. Mais merci beaucoup, Miguel.
Je vous en prie, continuez.
C'est toujours un plaisir.
Et bonne continuation, Jocelyne, et bravo pour ton livre. Que je dévore petit à petit.
Miguel, merci.
Okay. À très bientôt.
Merci. À très bientôt, Miguel.
À très vite.
Ouais. Au revoir, bye bye.
Merci. Alors, Jocelyne, la même question. Quel est le titre donc, que tu aimes interpréter, que tu aimes écouter à chaque fois, un peu comme
alors,
Miguel?
Alors, c'est le genre de question que vous m'avez posé, parce que comme je dis, toutes les chansons que j'ai chantées, en général, je les ai aimées avant de les chanter. Et donc, voilà, bon, si je dois parler de titres, pour moi, tu vois, souvent, les gens restent sur Caille Maman, Siwo, Sakitala, des choses comme ça. On reste un peu sur les premiers titres, les titres qui ont frappé en premier et compagnie. Et c'est dommage, parce qu'il y a des titres, pour moi, en tout cas que j'aime beaucoup et que j'aime beaucoup chanter, comme Tita Kissi, comme Tiffé Soupapé, comment on appelle ce morceau là, c'est un des derniers, Milan Corbier, par une pop petite mère, c'est un titre qui fait Simon Laguet, c'est oh là là, j'ai oublié le nom, ça tape bien fort. Voilà, c'est un des derniers titres que j'ai fait sur un des derniers albums de Kassab.
Alors moi, mon titre préféré de Jocelyne...
Et en lignée, tout ça, oui.
C'est ça.
J'adore ce titre. Mais c'est ça, justement, mais ce sont des moments différents. Mais justement, c'est ça. Et il y a une chanson, par exemple, que les gens n'ont pas beaucoup... connu aussi, c'est l'unique duo que je fais avec Patrick Saint-Éloi, qui est Débouillard Système. Morceau-là aussi, j'adore. Moi, je veux dire, je pense qu'il faut régulièrement écouter les trucs, parce qu'il y a des tas de choses qui vous donnent des sensations différentes. Je veux dire, Milan, j'adore chanter Milan en concert.
C'est ça.
Moi, ça m'amuse follement.
On le voit.
Bon, il y a plein de gens. Voilà, mais il y a plein de gens qui pour eux, c'est que ça a levé, ou si wow, Caille Maman, Soleil. J'entends souvent les mêmes titres, quoi. Au-delà de 95, on a l'impression que les gens sont figés là, alors que derrière, il y a un tas de titres qui sont vraiment...
Beaucoup de sons, mais magnifiques, notamment ce titre-là,
que
vraiment plaisir à écouter à chaque fois. Ouais. Alors, donc, je sais que, tu es très, 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 très sollicité, donc c'est dimanche, mais c'est vraiment un plaisir. On aurait pu parler de plein de choses, on aurait pu parler, effectivement, de Zénith, donc quand, pour la première fois, donc tu es devant donc un public mais immense, aux énigmes, mais tout ça est raconté dans ce magnifique livre, donc à à véritablement donc à avoir. C'était difficile de se confier donc Justine, parce que là il y a beaucoup de confidences, hein, il y a beaucoup de...
Non, c'était pas difficile. Le plus difficile a été d'élaguer, tu vois, parce que le livre était beaucoup trop lourd. Je faisais déjà 450 pages et encore j'avais déjà enlevé une bonne partie, donc je pense qu'il en était à 500. Et c'est un pavé insupportable. Et il fallait tomber à moins de 300 puisqu'on allait ajouter des photos aussi. Ouais. Donc en fait c'est vraiment je veux dire c'est difficile quoi de couper de d'enlever des choses etc. On a envie vraiment de tout raconter et même après il y a des tas de choses qui vous reviennent et je dis aïe 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 j'ai même pas parlé de monsieur ou demoiselle parce que il y a des tas de gens qui ont travaillé avec nous qui ont fait des choses avec nous. Mais qui, bon, sur le moment, quand on écrit, quand on réécrit, quand on machin, on met les grandes lignes. Et en fait, il y a des tas de petites choses intéressantes dont on ne peut pas parler parce que c'est trop lourd. Et il y a plein de gens qui disent, bon, ben, on veut le tome 2. Moi, je dis, bon, attends, c'est autres le tome 2, ok, fais les autres même parce que moi.
On salue.
Donc, non, il n'est pas dit que je ne fasse pas quelque chose, quoi. Mais bon, c'est quand même. Ça prend beaucoup de temps à faire. Ouais. D'autant que bon, quand il s'agit. Quand on écrit une fiction, on peut inventer tout ce qu'on veut. C'est une fiction. Ouais. Hein? Bon. Mais quand il s'agit de fêtes et compagnie, il faut être précis. Mmh. Et j'ai même des petites choses à corriger parce que je me suis trompée sur tel nom ou tel machin. Parce que avec le temps, parce que. Et donc c'est pas évident, c'est pas évident à écrire quoi. Une biographie, ça prend énormément de temps. Il faut toujours tout vérifier et faire un deuxième coup, non. Non.
Ah ouais, ouais, je pense qu'il faut, ils font un deuxième livre, hein, parce que là, il y a des choses.
Non, un deuxième livre, peut-être d'autres choses, je sais pas moi. Oui. J'ai envie pour moi, pas ça. Hein, ou là, bon, c'est pourquoi dire, ah tiens, voilà, c'est tout.
En tout cas.
Pour le moment, je préfère écrire des chansons. Hein,
tu vois, alors, tu le fais très bien. Alors d'ailleurs.
Mais justement, je vais continuer à écrire des chansons, tu vois. Je crois que.
Alors, pour l'avenir, on ne savait pas garder des affaires, Justine, tu nous l'as dit, mais est-ce que tu as une actualité? Est-ce qu'il y a des choses dans les tuyaux?
Oui. Oui. J'attends que la promotion se calme un peu pour que je puisse retourner aux chansons qui m'ont été offertes par plein de copains et qui attendent des textes. Quoi,
voilà. Ah, y a, super. En tout
mais
cas,
je vais en faire. Les gens disent, ouais, est-ce qu'il y aura un prochain album? Je dis aujourd'hui, est-ce qu'on est à l'ère de l'album?
Ouais. C'est ça le truc. C'est ça, voilà. c'est compliqué aussi, hein, tout ça. En tout cas, on voit.
C'est pas compliqué. Là, comme vous voulez qu'on sache, vous savez comment il y a des bouillades, c'est tout. Hein.
Alors, on le voit donc sur ce livre, il y a beaucoup de photos de Jacob, de tout le monde. Et tu parles de tout le monde. J'ai vu donc Jocelyn Mouka que j'ai eu récemment au téléphone, un gars magnifique. Freddy Marshall qu'on a reçu dans cette émission également. On a passé 2 heures à parler effectivement de Kassav, etc. Tout est dans ce livre-là. Achetez ça, pas oublier. Donc, achetez ça. Même des gens comme moi qui n'aiment pas lire, donc ça se lit donc tranquillement parce que sourit. Il y a un peu d'émotion. Il y a donc voilà, il y a des choses magnifiques. J'aime bien comment tu parles de Jacob. Mais franchement, on voit cette complicité entre vous deux à travers ce livre et des petits mots que tu laisses à chacun. Patrick Saint-Éloi, donc Jean-Philippe Martelly, Jean-Claude. Des mots. Ah non, mais Sabelle, achetez ça et c'est magnifique. En tout cas, merci beaucoup, José. Et j'espère vraiment, quand tu vas repasser donc, du côté donc, de la Guadeloupe, qu'on puisse faire une émission, mais vraiment donc, spéciale vinyle. Parce que le concept de
l'émission. Quand ce sera un peu plus calme, parce que ma vie est un peu bousculée ces temps-ci. Et en plus, même aujourd'hui, dimanche, j'ai encore 3 rendez-vous.
Ah, quand même!
Voilà.
Ah ouais?
Ben oui, parce que j'ai une séance photo demain, donc je dois aller voir un styliste, ensuite je dois aller voir une dame qui compte sur moi pour la déco d'un endroit, etc. Je vais pas dévoiler l'affaire. Et puis ce soir, normalement, j'ai rendez-vous avec mon ami frère, Georges Desémeux.
Aïe, aïe, aïe.
Il faut que j'aille voir avant de retourner à la Martinique, voilà.
D'accord. Alors, on va se quitter avec un son. Qu'est-ce que ça te fait quand tu écoutes ce son-là? Est-ce que le limbé revient?
Non, pas du tout.
Donc
non,
c'est... pas du tout. Voilà, donc c'est passé.
Mais tu vois, on passe toujours, c'est toujours le truc, tu vois, on passe toujours les morceaux que les gens entendent. Les gens ont ces morceaux-là dans leur cassette, dans leur ordinateur. Metinaïs, pour qu'ils découvrent Metinaïs.
Ah ben, volontiers. Alors,
je te suggère de faire découvrir justement les titres qu'ils ne connaissent pas.
Alors, pour ne rien... Pour ne rien te cacher, Tinaïs est programmé donc dans notre radio et qui tourne très bien. Et on nous a même appelé pour nous demander, mais c'est sur quel album que c'est tellement c'est les gens et les gens qui nous ont demandé
mais
ça, dès la you même ni album
mais
là.
Mais il y a plein de chansons. Moi, j'ai plein de chansons que les gens ignorent complètement et qui sont vraiment très belles, quoi. C'est, voilà.
Alors on va te suivre sur ça et on va faire une sélection de sons qu'on n'a pas beaucoup entendus de Jocelyne, de Cassave, etc. Volontiers. Mais en tout cas, merci beaucoup, Jocelyne.
Merci.
Ce fut un plaisir pour moi donc de t'avoir donc ce matin dans ce Big Nostal Zouk. Ils étaient nombreux connectés sur Facebook. On salue ceux et celles qui étaient sur Facebook. Des gens qui disent acheter le livre pour faire donc un muséum. Donc voilà.
voilà, par exemple, l'initiative.
Voilà. Et voilà. Quelqu'un qui dit, je veux écouter Tinaïs. Donc voilà, donc merci beaucoup.
Mais oui, il faut écouter Tinaïs. C'est un morceau de Georges Décimus. Et c'est un joli morceau, en fait. C'est un peu dans la continuité de Méga, pas Méga Dimon, mais de Magnès Abel. Magnès Abel, qui était aussi une chanson qui était faite pour les. En fait, là, c'est plus pour l'enfant. Et l'autre, c'était pour des adolescents, quoi, Magnès Abel. Ce sont des chansons que j'adore.
Vous avez écouté, donc on va écouter Jocelyne Biwar qui nous propose de faire apprécier donc à nos auditeurs autre chose que ce qu'on a l'habitude d'entendre. Et tu as raison. Allez, merci beaucoup Jocelyne. Passe un bon dimanche et courage donc pour la suite. Prends soin de toi.
Oui, je vais tâcher de le prendre cool.
Merci beaucoup. À très bientôt.
Okay, merci beaucoup. À bientôt, Jean-Philippe.
Merci.